Hein? Le psaume 121, verset 8, verset 1. Le psaume 121, verset 1er, c'est le cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, et ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni de dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, où je vous vivrai à toujours. Amen. Alors imaginez que vous êtes en montagne, c'est les vacances, vous vous préparez pour faire une randonnée pour le lendemain. Donc vous savez, vous allez partir à l'aube, très tôt, parce qu'après en montagne il fait chaud. Hein? Donc vous vous préparez. Et ce soir, vous vous couchez, après avoir effectué tous les préparatifs, vous êtes tranquille, vous aviez tout noté, vous avez coché, est-ce que chaque case est remplie, voilà, c'est prêt pour demain matin, on sera tranquille. Et puis le matin, vous vous levez, et au-dessus de votre tête, oh, bizarre. Il n'y a pas le soleil, c'est normal, le jour n'est pas encore levé. Mais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose au-dessus de votre tête, hein, ce sont des nuages. Puis alors, ils sont menaçants et à chaque instant, eh bien, ils risquent de déverser une pluie abondante. Bon, nous, on serait d'accord, hein? Non? En ce moment, on est d'accord, hein, que la pluie, elle descende, voilà. Mais là, pas de soleil, pas de ciel bleu, pas de temps dégagé, ni favorable. Alors, autrement dit, ce n'est absolument pas des conditions idéales pour s'aventurer dans une randonnée en montagne. Pourtant, eh bien, les prévisions météo d'il y a deux jours, elles étaient bonnes. Hein, on vous a dit qu'il ferait beau temps. Hein, il y aurait quelques nuages, mais c'était pas des nuages de pluie. Ça vous aurait fait un peu d'ombre. Vous voyez, un petit peu. Donc, quelque part, c'était bon, hein, c'était meilleur. Mais vous décidez quand même de partir sans vraiment être confiant. On n'est pas à l'aise, là. Hein, eh oui. Alors, pendant notre trajet terrestre, bien des intempéries vont s'abattre sur nos vies. Vous avez sans doute déjà commencé à y goûter. Hein? Les soucis, les difficultés, elles vont croiser souvent notre chemin. Eh oui. La Bible ne cache pas cette réalité, elle le dit. Au contraire. Elle évoque les problèmes rencontrés par toute la race humaine, par tous les hommes, toutes les femmes, les jeunes, les moins jeunes, et d'ici-bas, bien sûr. C'est Jésus qui dépeint les épreuves sous forme d'intempéries de la nature. Et il parle de pluie, de torrents, de vent. Vous regardez un petit peu, l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le... Qui a dit sable? Oh, Hélène. Mais l'homme prudent a bâti sa maison sur le roc. Amen. Pas sur le sable. Bon, il en fallait une, hein. Comme ça permet de parler un petit peu dessus. Hein. Et oui, c'est important, hein, qu'il y ait du roc, du rocher, de la pierre, pour faire des fondations solides, bien ancrer sa maison, pour qu'elle ne bouge pas. On va faire s'il faut avec, hein, mais elle ne bougera pas. En tout cas, le Seigneur n'a jamais promis la disparition des tracas et des souffrances pour ceux qui se convertissent. Amen. Si un jour un pasteur vous a dit, venez à Jésus, vous n'aurez plus jamais de problème, vous ne serez plus jamais malade, tout ira bien, vous serez riche. Oh, on parle de la prospérité, hein? Eh oui, oui, attention, hein? On est riche de sa présence. On est riche de son secours. On est riche parce que lui-même est riche et que nous sommes, nous aussi, des co-héritiers avec lui. Amen. Et nous attendons, bien sûr, nous allons partir un jour et nous retrouver tout simplement eh bien avec lui dans la cité céleste. Amen. Alors par contre, Jésus a garanti une chose, c'est la victoire. Amen. C'est le secours. C'est les encouragements dans les moments les plus délicats. Il va nous donner des choses qui vont nous permettre de passer au travers de ces tempêtes, les tempêtes de la vie. Je prends Jean, chapitre 16, verset 33. Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. » Vous comprenez? Il nous a parlé pour qu'on ne soit pas dépourvu de sens ou je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Mais qu'on sache. Donc, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Dans la victoire, elle est déjà acquise. C'est-à-dire que vous êtes dans le camp du vainqueur. C'est pas n'importe qui. Vous êtes dans l'équipe qui va gagner, non pas la Coupe du Monde, mais l'éternité. Amen. C'est important. Si je demeure dans le Seigneur, si je suis fidèle, lui sera fidèle et il me gardera jusqu'au bout. Il me fortifiera, il m'encouragera. Il me donnera tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir aller jusqu'au bout en vainqueur. Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons, je vous soyez, mais nous soyons, tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Ah, ça veut dire que ouais, il y aura des tentations, hein? Il y aura des petites attirances. Certains diront, pasteur, c'est plus fort que moi. Bon, je le comprends, hein? Je comprends, hein? D'abord, on n'est pas maître de tout. Le Seigneur est maître de tout. Et comme il est dit, de faire attention à celui qui, par exemple, qui dit je cherche le terme exact. Que celui qui est debout. Voilà, c'est ça, sœur. Allez, écoute, hein, heureusement. Que celui qui croit, le terme exact c'est ça, que celui qui croit être debout, il prenne garde. Parce que la peau de banane, elle est là. Hop. Et pas d'attraque. On est par terre. Alors si tu crois être debout, mon frère, demande au Seigneur de te donner de la sagesse, de te donner d'être prudent, de te garder dans toutes ses voies à lui. Amen. Parce que c'est comme ça. Hein? Eh oui. Alors, si l'apôtre Paul peut parler ainsi, hein, en disant qu'aucune tentation qui nous est survenue eh bien, n'était humaine et que Dieu prépare également le moyen d'en sortir, c'est parce que lui-même, et il parle par expérience, lui-même a expérimenté ces choses. De Timothée, cette lettre d'aide qu'il va écrire à Timothée, chapitre 4, verset 16, il dit « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. » Tu comprends quelque chose? Je suis seul. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé, c'est-à-dire que ce n'est pas leur faute. Et quelque part, il va le souligner, il va le dire plus loin, c'est le Seigneur qui a permis ces choses. Pour que je sois seul, et pourquoi, vous allez voir. Alors que ça ne soit pas imputé, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Quelque part, il vaut mieux avoir le Seigneur avec soi. Le Seigneur qui prenne notre défense, non? Plutôt que des hommes, parce que des fois, nous les hommes, on est maladroits. Comme on dit, on veut trop en faire. Le Seigneur, il m'a dit, arrête de jeter des perles au pourceau. Ces choses, garde-les pour toi. Je l'ai entendu dans mon oreille. Arrête de jeter ces perles au pourceau. Ils n'en sont pas dignes. Ils les roulent dans la boue. Tes expériences que tu es en train de leur expliquer, de leur donner, garde-les pour toi. C'est pour te fortifier, c'est pour t'encourager à aller plus loin. Tu en vivras d'autres d'expériences. Mais ça, ne leur en parle pas. Parce qu'ils vont le rouler dans la boue. Ils continueront de se moquer de toi. Ce n'est pas pour ça qu'ils t'estimeront plus. Vous voyez un petit peu? Alors c'est vrai, il y a des choses qu'on doit dire, il y a des choses qu'on doit garder. Et c'est important ces choses-là. Hein? Amen. Alors lorsqu'une personne traverse des épreuves de la vie, eh bien, non, c'est bien souvent, voilà, je me reprends, bien souvent, eh bien, elle est exposée à des choses particulières. Quand on croit être capable, Et que tout d'un coup, on se trouve dépassé. C'est comme lorsque on se croyait capable de nager, de faire des longueurs et d'aller loin. Et puis, le temps se lève, la tempête arrive, les vagues sont hautes, et puis on se retrouve au fur et à mesure submergé. Submergé. Et on commence, comme on dit, à prendre le bouillon. Hein. Et oui, il dit donc, à partir de là, eh bien, on a peur. C'est l'insécurité qui nous tenaille, c'est l'incertitude. On est inquiet, on est dans la crainte. Pas tranquille quand vous commencez à boire la tasse. Hein. Eh oui. Alors Paul a connu des moments terribles au cours desquels il a failli y laisser la vie à plusieurs reprises. Il a failli, mais il n'est pas mort. Il fallait que le temps de Dieu soit là pour lui. Alors, dans certaines de ses lettres, il partage quelque part ses craintes, ses douleurs, ses moments d'incertitude. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9. « Nous sommes faibles et vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités et errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. » Ça, c'est, il s'exprime. Il va plus loin encore. Dans la deuxième aux Corinthiens, regardez avec moi, deuxième aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. « Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. » Ça fait 39. Hein? Oui, ça fait quand même 39. Hein? « 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. J'ai été en péril sur des fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens. » Corps, ça va? En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Ça en fait des choses à vivre, hein? Ça en fait des expériences, croyez pas? Et certainement très douloureuse. Très douloureuse. Il dira à l'adresse de Timothée, « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal. » Pourtant, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble? Voyez un peu. Mais quelquefois, un a fait naufrage, l'autre pas. Il a gardé le cap. Et l'autre a fait naufrage en attendant. Eh oui, c'est la route, hein, c'est les chemins dans lesquels nous marchons. Hein. Lors de la traversée en bateau pour rejoindre Rome, l'apôtre et les membres de l'équipage ont été privés de soleil. Ils ont dû affronter une bourrasque terrible. Le raquillon, c'est ça? Un vent terrible, un vent impétueux qui se lève. D'ailleurs, tout le monde croit périr. Ils vont jeter la cargaison, ils vont même eux-mêmes se mettre sur des petits radeaux de fortune, s'ils flottaient encore un peu, quoi, hein, voilà. Et oui, donc, ils vont être préservés parce que Dieu avait dit, aucun ne mourra. C'est bien quand Dieu dit ça, hein. Imaginez qu'il ait dit, aucun ne vivra. Oh pétard! Avant que le vent se lève, on commence déjà à trembler. Non, mais il l'avait dit, donc il l'a fait. Tiens, Dieu va jusqu'au bout, au fait. Hein? Eh oui, oui. Alors, bien des personnes connaissent le désespoir déçu. Vous n'avez jamais été déçu? Qui a été déçu? Levez la main. Vous la rabaissez là. Mais souvent, ça arrive par des gens que nous aimons beaucoup. Ça ne vous arrive pas? Vous dites, pas lui quand même, ou pas elle. Hein. La femme, c'est pas à l'abri là-dessus. Hein. Oh là là, quelle déception! J'aurais jamais cru de sa part! Et pourtant, c'est comme ça. C'est comme ça. Quelle déception! Là, on tombe, comme on dit, on tombe de haut. Hein. On descend, on pleure. On pleure parce que c'est comme ça. On a été trompé, on a été trahi. Il n'a pas gardé sa langue. Il aurait dû se taire. D'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit. Hein, au lieu de parler, il vaut mieux se taire et prier. C'est pas vrai? Ben oui. Il vaut mieux se taire, prier, puis laisser le Seigneur lui agir. Ça, c'est plus efficace et c'est meilleur. Parce que ça tiendra jusqu'au bout. Amen. Alors, certains rencontrent l'échec scolaire ou professionnel. Vous avez toujours tout réussi dans la vie? Je vous sens là, dans la réflexion. Vous avez toujours tout réussi? Des fois, on croit avoir réussi, mais après, quand on lit la note, waouh, waouh, waouh! Pourtant, je croyais que c'était bon! Et ouais, puis ça fait mal! On redescend, hein? Ouh, la sueur froide, tout d'un coup, hop, on a froid, on a chaud, hop, on ne sait plus, hein? Voilà. Alors, oui, hein, c'est l'échec, hein? D'autres vivent des traumatismes au niveau sentimental. Elle-même. Il m'aime. C'est le plus beau. C'est le plus beau. Et c'est moi qui l'ai. Vous comprenez? Eh oui. Et puis un jour, trahison. Oh! Il faut digérer ça, hein? Et ça fait mal, hein? Ça fait mal au niveau sentimental. Ça nous touche le moral, ça nous touche le cœur. Notre cœur est affecté. On a mal. Je pense au veuvage aussi, c'est pas facile. Je pense au célibat, c'est extrêmement difficile à gérer. Il y en a qui me disent, moi je suis forte. Ma femme, elle me dit, quand tu meurs, je ne me remarie pas. Il faudra mourir un jour, hein, ou à moins que le Seigneur vienne nous prendre ensemble. Bon, on ne connaîtra pas ça, hein. Mais... ben on ne sait pas, Hélène, elle est d'accord, hein, voilà. Alors, est-ce que c'est facile à gérer? Non, c'est pas facile. Le célibat, c'est pas facile. À moins d'avoir reçu ce don, Paul l'avait. C'est pas tous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les tentations le sont là. Est-ce que c'est facile à gérer? Comme on dit, la chair est... et l'esprit, il est... bien disposé. Mais la chair est faible. Et un accident est vite arrivé. Alors qu'est-ce que le dit la parole de Dieu? Il vaut mieux se marier que de se brûler. D'accord? Bon, je ne suis pas en train de... Hein, mais voilà, si ça vous arrive, hein, il vaut mieux se marier que de se brûler, que de perdre le salut, de vivre dans le péché. Vous comprenez? Donc, ces choses sont là, la parole de Dieu est claire là-dessus. Hein. Donc, c'est des choses difficiles, c'est des traumatismes, bien sûr. Hein. Eh oui. Alors, des enfants de Dieu, je parle d'une manière générale, mais c'est ça, une généralité, ont affronté des choses difficiles, par exemple la maladie, l'hôpital, on en sort, on y revient, c'est difficile. Les traitements médicamenteux, ça nous ensuce, ça nous assomme, c'est pour nous aider. Attention, je ne vous dis pas de supprimer vos traitements. Si on vous donne un traitement et vous dit « je me sens bien », c'est un traitement de confort. Prenez-le. À moins que le Seigneur vous dise, et là, vous en serez convaincu sur une parole de Dieu, comme c'est arrivé à une sœur, c'est arrivé, elle était complètement guérie. Elle a demandé à son médecin de lui faire un certificat pour déclarer vraiment qu'elle n'avait plus besoin de traitement cardiaque. Elle était cardiaque. Elle avait une malformation, eh bien, le Seigneur lui a dit, tu es guérie. Le médecin, elle est allée le voir. Le médecin, il a dit, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai fait faire un bilan, mais c'est plus le même. Alléluia. Vous croyez que Dieu est capable de faire des choses semblables? Bon, moi aussi, je le crois. Et elle s'est fait faire un certificat médical où le médecin il dit, apparemment, il s'est passé quelque chose parce qu'elle n'a plus besoin de traitement. Les anomalies qu'il y avait là au niveau du rythme cardiaque ont disparu totalement. C'est comme si elle n'avait jamais été malade. Alléluia. Mais ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alors oui, mais ceux qui y passent, ceux qui le subissent, c'est pas facile, hein, les traitements médicamenteux, l'impossibilité de vaquer des occupations normales, toujours faire attention parce que, on sait pas, il y a une épée Damoclès, là. Eh oui. D'autres croyants sont sous les nuages car leur vie spirituelle est pauvre, sans consistance. Et il y a bien la foi qui a ouvert la porte du salut. Alléluia. Merci Seigneur, je suis sauvé. Oui, oui, oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'engagement qui suit, ou peu d'engagement, un peu de consécration, un peu de recherche assidue et régulière, tout simplement, de la personne de Jésus, au travers de la prière, de la lecture de la parole de Dieu. Voilà que la vie chrétienne est liée, mais elle est morne. Mais oui. Vous savez, on dit de mettre du sel. Moi, j'aime bien, je dis, mets du sel. Pas trop, parce qu'après, c'est ma tension qui monte. Mais mets du sel. Mais oui, oui, faire attention, hein. Il faut de la saveur. Ça n'a pas de goût. Et oui, ben c'est un peu ça. Quand quelqu'un ne rajoute pas du sel dans sa vie, par la prière, la lecture de la parole de Dieu, par des témoignages à rendre, d'expériences à vivre, ça manque un peu de saveur. Et oui. D'autres disciples également, par contre, aspirent réellement à expérimenter des changements, une vie de croissance spirituelle. Alléluia. Vous ne ferez jamais arriver tant que vous ne serez pas au ciel. Ça veut dire quoi, pasteur? Ben, il faudra continuer de grandir. Mais, pasteur, j'ai 50 ans de conversion. Mais tu n'es pas encore arrivé au bout. Et si Dieu te donne encore 50 ans de vie, on ne sait pas. Hein? Eh bien, il faudra continuer pendant 50 ans à grandir. On n'est pas arrivé. Eh oui, on n'est pas arrivé. Eh oui. Alors, il faudra, hein, c'est comme ça. Et c'est finalement la présence du Seigneur, la communion avec le Seigneur qui va se développer. Il le faut, hein. Alors même si parfois on est découragé, ça arrive que vous soyez peu motivé, surtout quand c'est la réunion de prière. Waouh! Je vous fais une confidence. À l'époque, j'étais en errant à l'époque, hein. J'étais pas pasteur, j'avais la paix, mais on attendait que ce soit le moment. Hein. Il faut toujours le moment avec Dieu. Hein. Partez pas avant. Hein. Voilà. Et j'allais à la réunion de prière, en voiture, Mazan-Carpentras, 7 kilomètres. Alors j'étais crevé, j'étais mort, fatigué. J'ai dit, Seigneur, je vais à la réunion de prière, mais t'es un drôle de combattant là. Hein. J'étais mort, 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 mort. Et puis, je ne sais pas ce qui se passait, mais à chaque réunion, c'était pareil. Pendant la réunion de prière, j'étais comme renouvelé. Oh, je participais au combat. Et quel bonheur. Quel bonheur d'intercéder, de participer au combat, d'être uni avec les autres, là. Et puis, au retour, alors que, en y allant, j'étais crevé, j'avais envie de dormir. C'était ce que j'avais le plus envie. Et bien, de retour, je n'avais plus sommeil. Renouveler la communion fraternelle, l'Église, la présence du Seigneur, parce que le Seigneur est au milieu de nous. Et oui, c'est comme ça. Alléluia. Alors oui, et même si c'est des moments difficiles, décourageants, parce que tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne sais pas, avance. Sors de l'impasse. Et le Seigneur te dira, à droite. Ah, il faut aller à droite. Tant que tu restes dans l'impasse, il ne peut pas te dire à droite, à gauche, il te dit devant, 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 avance. Voilà. Et puis, tu vas avancer et à ce moment-là, tu vas voir, la réponse va arriver. Hein. Alors, c'est difficile de rester motivé dans la foi également lorsqu'on a toujours quelqu'un à tirer. Un jour, il y a un don spirituel, c'est dans une grande convention. Tu veux que ton mari aille à la même vitesse que toi? Alors, je ne sais plus si c'est le mari ou si c'est la femme. Ben, peu importe, hein, ça peut s'adapter aux deux. Hein. Avance à ta vitesse et laisse ton mari ou ta femme avancer à sa vitesse. Alors, bien sûr que quand je dis quand on a quelqu'un à tirer, c'est difficile hein, de rester bouillant, zélé, quand il faut toujours encourager, soutenir, conseiller, entourer. Pas facile, mais il faut prier. Il faut prier parce que les réponses ne peuvent venir que d'en haut. Amen. Et puis chacun a sa nature. Moi, je suis explosif. Pff, ma femme est plus réservée. est très réservée. Elle encaisse, comme elle me dit. Puisqu'elle a du bien, je pense que c'est une réponse du Seigneur. Elle oublie tout. Ben, tout ce qu'on lui fait. Elle avait un verset, excusez-moi, c'est un verset chéri. Quand on te fait du mal, fais du bien. Rends le bien pour le mal. Ça, ça avait marqué, c'était à Gap, à la colo de Gap. C'était le pasteur Jean-René Pérez. Non, je m'en souviens. Eh oui, oui. Pourtant, j'ai mauvaise mémoire. Hein. Mais moi, quand c'est comme ça, c'est bien. Hein. Ça fait du bien. Eh oui, eh oui. Alors, il faut toujours encourager, mais il faut le faire. Avance. Ne te casse pas la tête. À un moment donné, il va y avoir le déclic. Paf! Et après, c'est toi qui seras obligé de courir derrière. Eh oui. Alors, quelles que soient les situations auxquelles on était exposé, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Deux. Le premier consiste à ne pas bouger, à rester sous les nuages, à subir le contact, à s'entretenir par des pensées, des paroles négatives, à ruminer ses frustrations, ses déceptions. J'ai fini ma liste. Mais elle n'est pas exhaustive. Hein, parce qu'il y a bien des choses corps qui peut-être t'empêchent d'avancer. La deuxième possibilité, c'est la suivante. On décide quelque part de se bouger.
Remuer.
De devenir un peu tonique. On refuse la fatalité. On ne reste pas dans l'immobilisme. On avance. On décide de croire que par la foi, tout est possible. Tout est à envisager avec la foi. Oui, je vais pouvoir percer ces nuages. Je vais atteindre enfin la chaleur du soleil, la lumière du soleil. Amen. Et donc sortir de l'épreuve et goûter enfin à la victoire. Amen. Mais il faut que je me remue, que je me secoue, que je refuse de me laisser écraser, culpabiliser, arrêter. Vous savez, la Bible est remplie d'encouragement à passer à l'action. Hein. De nombreux verbes expriment le dynamisme et la nécessité de se mettre en mouvement sont utilisés dans la parole de Dieu. De Dura, par exemple, Josué, après la défaite d'Aï. Aïe, ça a fait. Eh oui. Eh oui, parce qu'on a introduit le péché, il y a eu la déception, il y a eu il a fallu repartir. J'allais dire une bêtise, non. Il a fallu repartir avec la défaite dans le cœur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ? Tu as raison de te morfondre. Eh, vous êtes mauvais, c'est normal. Vous n'avez rien préparé, vous n'êtes pas mis à genoux devant moi. Enfin, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Et puis après, il va mener la solution. Il va montrer ce qui s'est passé. L'interdit était dans le camp d'Israël. Il va montrer qui c'est qui avait l'interdit avec lui, etc., etc. Il dira à Samuel, c'est 1 Samuel 16, verset 1, je ne sais pas si je te l'ai donné, je ne crois pas. Hein, voilà. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer Saül ? Prophète, qui avait oint Saül, parce que Dieu lui avait dit. Et voilà que Saül, il fait des choses qu'il ne doit pas faire. De consacrer l'armée, c'était pas à lui à le faire, c'était à Samuel. Mais Samuel, il tardait. Oh, c'est bête, quoi, franchement. Le sacrificateur, hein, l'homme de Dieu qui n'est pas là au temps voulu. Attends, mais si c'est un homme de Dieu, il est là quand Dieu le veut. Il y est au bon moment. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Saül ? Il a commencé à regarder autour de lui, il entendait. Et qu'est-ce qu'il fait, Samuel ? Et Saül, quand même, il pourrait se bouger, il pourrait le faire à sa place. C'est lui le chef, c'est lui le responsable, c'est le leader. Il pourrait le faire. Et il va faire ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Ce qui était réservé à l'homme de Dieu. Et parce qu'il a failli, parce qu'il l'a écouté finalement. Vous savez, c'est le côté humain qui prend le dessus. C'est le côté spirituel. Je vais dire le côté charnel, mais c'est ça, c'est le côté charnel qui prend le dessus sur le côté spirituel. Et il s'est planté, le pauvre. Il s'est planté, eh oui. Alors quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlehemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. C'est-à-dire que lui, Dieu n'est jamais pris de court. Dieu a toujours sa solution. Nous, souvent, on est dépourvus de solution. On tourne en rond, on commence à tourner en rond, à cogiter là. Oups, c'est la tête qui tourne. Mais c'est ça, hein, c'est un petit peu ça. Voilà, celui que je désire pour roi, je sais, il est là. Lui, je l'ai pris par défaut, parce que le peuple me le demandait, m'ont forcé la même. Mais celui-là, ce sera celui que j'ai vraiment choisi. Celui que j'ai vraiment choisi. Alors Dieu voulait construire également une maison, David voulait construire une maison pour l'Éternel, mais Dieu va lui dire que ce ne sera pas lui. Mais Seigneur, c'est mon rôle. Je suis le leader d'Israël, je suis le roi. J'ai combattu dans l'armée de l'Éternel. Et justement, Dieu lui dit, écoute, ce ne sera pas toi. Toi, tu es un homme de guerre. Tu es un combattant, tu es un guerrier. Ce sera ton fils Salomon. Et ça, c'est un coup dur pour David. Parce que peut-être qu'il vous laissait quelque chose de visible. La maison de l'Éternel. Eh oui, eh oui. Mais Dieu lui dit, non, tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, de tailleurs de pierre, des charpentiers, des hommes habiles, de toute espèce d'ouvrages. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils, et la maison de Dieu a été réalisée. C'est-à-dire que David se croyait, lui, appelé à construire la maison de l'Éternel. Et Dieu lui dit, non, écoute, tu veux vraiment le faire, écoute, tu vas préparer. Tu vas faire les préparatifs, mais ce n'est pas toi qui vas construire. Et il nous faut accepter quand Dieu nous dit ça. Après, tu vas t'effacer, c'est un autre qui va le faire à ta place. Parce que c'est lui que j'ai choisi. Tiens, Dieu choisit. Il ne se trompe pas, hein. Il ne se trompe pas. Moi, j'ai entendu ça. Ouais, moi, j'aurais jamais pris ce gars-là. Et puis, le Seigneur l'a choisi. Il l'a choisi. Il est allé, il a dit oui. Parce que quelque part, il voulait plaire à Dieu, il voulait servir Dieu. Et puis, Dieu le bénit. Mais gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus dira à la femme adultère. Hein, la femme pécheresse. Adultère. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. Ah oui. Alors, ce que je retire de ça, et ce que je vois associé, c'est la foi. Elle est toujours associée à la notion de volonté. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Eh oui. Dans notion de volonté, de détermination, de mobilisation intérieure, Bartimée. Vous connaissez Bartimée? Il aurait pu rester assis sous les nuages de son handicap lorsque justement le Seigneur est passé à côté de lui. Qu'est-ce qu'il a fait Bartimée? Alors qu'on lui disait silence, je me tais. Non, il ne s'est pas tué. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi, ça fait des ordres. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus! Encore plus fort. Le Seigneur l'a entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, appelez-le. Faites-le venir. Amen. Et le miracle de guérison s'est opéré, cet homme a vu. Alors qu'il était vraiment handicapé. Eh oui, oui, oui. Le malade de la piscine de Bethesda. Il aurait pu rester allongé dans sa misère encore longtemps, hein, lorsque Jésus est passé près de lui, qui lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Ou je ne sais plus comment il lui a dit ça. Hein, qu'est-ce que tu fais là? Mais je veux être guéri. Écoutez, combien de temps il est resté dans la piscine? Combien? C'est pas écrit. 38 ans, il me semble. Hein. 38 ans. Il me semble, oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la piscine de Bethesda. Vous la connaissez pas? Ah. La piscine de Bethesda, vous avez, quand vous allez en Israël, vous avez sur la droite l'église Sainte-Anne. C'est sous l'égide des Français, hein. Il y a le drapeau français, hein, dans ce lieu. Ah oui, le drapeau français, c'est la gestion française. Vous rentrez, sur la gauche, vous allez, et donc, un petit chemin, vous arrivez, hop, et vous avez le bassin. Alors, ça doit faire au moins 3,50 m, si ce n'est pas plus. Et vous avez, par exemple, vous arrivez de là. Vous arrivez au bout du mur. Vous avez l'escalier qui commence à descendre, qui continue à descendre. Et là, vous arrivez aux margelles de la piscine de Bethesda. Donc, vous voyez un petit peu, le gars, il avait tout ça à faire, tous ses circuits à faire avant d'arriver là. Alors, évidemment, il était sur un grabat, c'est-à-dire sur un brancard. Tout le monde arrive avant lui, hein. Parce qu'il se plaint de ça. Il dit, Seigneur, mais chaque fois que j'essaye, quelqu'un arrive avant moi dans l'eau. Quand l'eau était agitée par l'ange, hein, et celui qui plongeait était guéri. Il dit, mais chaque fois, il y en a un qui arrive avant moi. Mais moi, je retiens une chose, c'est qu'il était positif, ce gars. Il ne dit pas, jamais je serai guéri. Oui, je me lâche, que tu vois. Hein. Il ne dit pas, je ne serai jamais guéri. Mais là, je me plains parce que chaque fois, quelqu'un qui passe avant moi. C'est-à-dire qu'il compte qu'un jour, ça lui arrive de passer avant les autres. Hein? Donc, il est toujours positif, le gars. Son état d'esprit, c'est « oui, je veux être guéri ». 38 ans, hein, il me semble, 38 ans. Il est toujours là, en train de dire « je veux la guérison, je veux la guérison, je veux toucher l'eau en premier, et je me jette dans le vide, là !» Paf ! Même si c'est pas nager, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il aurait été guéri, vous comprenez ? Et c'est ça qui est important. C'est la finalité. Alléluia. Et oui, il va vivre le miracle, parce que le Seigneur va lui dire « allez, prends ton lit, rentre chez toi. » Hop, 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 hop. Il n'est même pas eu à plonger dans l'eau. En tout cas, dans l'adversité et l'épreuve, Dieu demande à ses enfants de faire quoi ? De se lever. De se lever, de se mobiliser pour le rencontrer, pour mettre en pratique ses enseignements. Un jour, j'ai une sœur qui vient me voir, Bernard. Je sors de chez le Toubib. Il dit que je vais vers... Oh, c'est quoi comme maladie ? Asthme. Il dit que je prends le chemin pour être asthmatique. Je dis, quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je prends... Non, mais j'ai dit, attends, ne prononce plus le nom. Tu as la maladie ou pas ? Est-ce que tu es asthmatique ? Parce que si tu dis que tu vas vers l'asthme, que tu vas être asthmatique, tu es en train d'accepter. Non, refuse. Refuse. C'est pas évident. Tu es en train, le médecin te dit de te diriger vers un asthme. Ah, je dis non. Ne prononce plus ce nom. Maintenant, tu vas prier en disant que le Seigneur doit te délivrer de cette pensée déjà, hein, et puis que le Seigneur change les résultats des analyses. Et j'ai prié avec elle, au temps de bureau à Martigues, ça se passe. Écoutez, alors d'aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans que je suis parti de Martigues, il y a bien 5 ans avant que je parte, donc il y a au moins 15 ans, toujours pas d'asthme. Vous comprenez ? Toujours pas d'asthme. Alors qu'elle partait vers l'acceptation de la maladie, elle s'est levée finalement, elle était encouragée à le faire, elle l'a fait et elle a été totalement guérie. Je ne sais pas si je peux dire guérie, mais elle n'a pas été affectée par la maladie. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas qu'il faut faire, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça chaque fois, hein, mais pour elle, ça a marché. D'ailleurs, ne me demandez pas pourquoi j'ai répondu comme ça, je ne sais pas. Ça vient d'en haut. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour elle. Eh oui. Alors, la démarche à suivre consiste à quitter la vallée prisonnière des intempéries pour prendre de l'altitude, gravir les sommets dégagés. Jésus lui-même se retirait, savait se soustraire aux pressions multiples qui étaient là, hein, tout simplement, qui s'exerçaient sur lui. Il allait retrouver son père. Il allait se ressourcer sur une montagne avec son père. Et le Seigneur Jésus a invité Pierre, Jacques, Jean à monter sur un lieu élevé. Les trois disciples ont vu, entendu des choses qui ont profondément marqué leur cœur. Alléluia! Bien sûr, il faut persévérer. La résistance. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Bon, multiplié par autant d'années qu'il vous reste à vivre. Hein. Et oui, parce que c'est ça, hein. Vous savez, de nombreux enfants de Dieu sont convaincus de la nécessité de se lever. Ils ont compris. Et pour prendre la victoire dans la foi, sur des situations pénibles, difficiles, seulement le chemin pour arriver au sommet de la montagne, il est long. Il est pénible. Eh oui, eh oui, eh oui. Ça demande des efforts, du du courage, la ténacité, et on y fait des rencontres désagréables. Mais alors, le découragement, le doute, l'incertitude, la déception, le regret de s'être engagé dans cette voie. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'a pris de dire oui? Ça vous est pas arrivé? Je ne vous demande pas de lever la main, mais c'est arrivé à beaucoup. Eh oui. La lassitude, la fatigue physique, mentale, spirituelle, la tentation d'abandonner, de retourner en arrière, bien sûr, ça se fait de plus en plus pressant. Eh oui. Ainsi, une personne qui découvre Jésus peut avoir envie de ne pas aller jusqu'au bout de son expérience spirituelle à cause des épreuves. Une autre peut se refroidir au niveau de sa foi, hein, si elle ne reçoit pas tout de suite des réponses à ses prières ou à ses questions. Ça peut être une question simplement. Eh oui. Un croyant peut se laisser aller et tomber dans les pièges du péché. Eh oui. Ça peut arriver. Eh oui. Alors un disciple peut rétrograder face aux exigences de la vie chrétienne. Un autre peut perdre l'espoir de vivre enfin dans la paix, dans la sérénité intérieure et dire que ça ne vaut pas la peine finalement. Et oui, ça peut arriver. En tout cas, chaque personne désire vivre avec Jésus, hein, celle qui désire vivre avec Jésus, doit se souvenir que le Seigneur, c'est le meilleur choix. Number one, le choix numéro un. C'est lui, c'est le Seigneur. Et la Bible assure et garantit la victoire dans chaque situation si on fait confiance au Seigneur. Paul le dit, je crois que je ne t'ai pas donné, Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, plus que vainqueurs. À la victoire, il y rajoute encore quelque chose. C'est pas beau? Eh oui. En tout cas, chaque enfant de Dieu a la possibilité de triompher dans toutes les circonstances en s'appuyant sur le Seigneur. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Il ne dit pas, je puis tout parce que j'ai été avec Gamaliel, le plus grand enseignant de la terre, dans la meilleure école. La tienne, elle est mauvaise, la mienne, elle est meilleure. Vous comprenez? Non. Lui, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que Paul, il a dû fuir, il le sait. Il a failli mourir, je lui ai dit plusieurs fois, etc. En tout cas, le soutien et le renouvellement des forces le sont donnés par notre Père Céleste. Il nous aime. Amen, il nous aime. Et pour cela, eh bien, il s'agit de refuser de déjà retourner en arrière. Refuser le défaitisme. Refuser de redescendre dans la vallée, d'abandonner la marche en avant. Il convient aussi d'avoir un cœur ouvert à la grâce divine pour permettre à l'étincelle du courage d'être produite en nous par le Saint-Esprit. Des fois, il faut une étincelle. Ancien pompier, un mégot de cigarette, une petite étincelle. Si tu n'as pas un verre d'eau pour l'arrêter tout de suite, tu fais brûler toute la forêt. Parce qu'on peut éteindre un incendie avec un verre d'eau. Même des fois, simplement en enlevant dans le triangle du feu un élément, on enlève l'oxygène, paf, le feu s'arrête. C'est-à-dire qu'on le prive de vie. Alors, donc à partir de là, oui, il ne faut pas retourner en arrière, pas redescendre dans la vallée, pas abandonner. Il convient aussi d'avoir un cœur ouvert à la grâce de Dieu. Les Écritures citent de nombreux passages de personnages qui ont connu un renouveau pour poursuivre leur marche en avant après avoir été encouragés par le Seigneur. 1 Samuel, Tsiklag, ça vous dit quelque chose? Tsiklag, l'expérience de Tsiklag. Il était une période particulière, David joue au fou, là. Hein? El tonto, la cabeza, ça va pas? Il était pas bien, hein? Oui. C'est ça, hein? Ah, j'ai le conjoint prof, là. Et oui, il perdait la tête. Parce qu'il savait qu'il devait combattre contre ses frères, se mettre avec l'ennemi pour combattre contre ses frères. Il ne voulait pas, il n'avait pas envie. Il savait que ce n'était pas bien devant Dieu. Donc il faisait le fou, il bavait. L'autre, on dit, oh, il est fou, le gars. Et après, quand on est dans le combat, autant il nous tape dessus à nous. Ça ne va pas, là. Il ne faut pas rester comme ça, hein. Oui. Alors, quand il revient, Quand il revient, Siklag est en train de brûler. Et il n'y avait plus de brebis, d'agneaux. Mais il n'y avait plus aussi les femmes et les enfants. Oh, pétard, là, c'est pas pareil. Hein. Donc, tous les soldats de David voulaient lui tomber dessus. Parce qu'ils disaient, c'est sa faute, c'est lui qui nous a entraînés, là, dans cette histoire. Bon, ils ont dit oui, hein. Mais ça, ils l'ont oublié. Donc, c'est sa faute à lui, il faut un coupable toujours. Hein. Il faut toujours un coupable. Et là, David, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est tenu devant Dieu. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses filles et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Est-ce qu'un chrétien, peut passer par la dépression? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Vous avez l'exemple d'Élie. Vous le regarderez chez vous en Roi 19, vous lirez un petit peu tout cela, hein, entre parenthèses, Dieu, verset 1er au verset 18, et vous verrez un petit peu le cheminement qui conduise Élie vers un syndrome dépressif, parce que c'est ça, il y passe, il est là. Eh oui. Alors voilà qu'après avoir persévéré, après avoir poursuivi votre route, vous avez percé la couche nuageuse pour découvrir enfin au sommet de la montagne un spectacle étonnant et merveilleux, magnifique. Vous êtes maintenant au-dessus des nuages. Alléluia. Eh oui. Vous êtes au milieu d'une montagne verdoyante. Parce que s'il y a l'humidité, s'il y a la chaleur, ça pousse. C'est verdoyant. Le soleil brille au milieu du ciel bleu. Ça y est, vous l'avez trouvé. Vous avez votre récompense. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez contempler un cadre grandiose, magnifique. Et quand une personne persévère dans la foi, qu'elle s'accroche au Seigneur coûte que coûte, eh bien, elle est rendue capable de surmonter les pires crises, les crises les plus intenses, et parvenir justement à dominer les situations critiques qui sont là, on les rencontre. On ne les veut pas, on ne les désire pas, à moins d'être maso. Mais moi, je préfère le bien que le mal. Hein. Je préfère la facilité à l'opposition. Hein. Oui, oui, bien sûr. Hein, oui, oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la lumière divine brille. Alors, bien sûr, dans sa vie, dans notre vie, comme le soleil est étincelant, en haut de la montagne, on se réjouit, on se réchauffe, on est bien. Et chaque disciple est appelé à gravir des étapes. Des étapes, vous n'êtes pas arrivé au sommet encore, des étapes qui doivent vous mener tout simplement vers une victoire. Et celle-ci, elle peut revêtir des formes différentes. Ça peut être une guérison intérieure. Personne ne sait. Ça m'est arrivé de prier pour une jeune fille. Elle ne m'a rien dit de sa vie, elle venait pour la première fois. Et j'ai prié pour son problème. Elle ne m'a jamais rien dit. Si, elle me l'a dit après. Elle m'a dit, pasteur, vous vous rappelez la première fois que je suis venu? Oui. Vous avez prié pour ça. Même ma famille ne savait pas. J'ai été guéri, délivré. Ça a disparu. Bon, ça vient de Dieu. Moi, j'y peux rien, hein, franchement. Voilà. Oui. Guérison intérieure, libération de l'angoisse, de l'anxiété, délivrant des pensées négatives ou suicidaires. Ça peut arriver. Eh oui. Changement de mentalité, découverte du repos de la foi. Ça existe, le repos de la foi. Alléluia. Affranchissement de la crainte, de la culpabilité. Triomphe sur le péché. Alléluia. Vous avez entendu? Triomphe sur le péché. Oui, la Bible fait l'éloge de la persévérance et de la foi. Vous en doutiez? Là, vous ne pouvez plus en douter. Hein? Ah oui. Elle souligne que cette manne dernière est rémunérée par le Seigneur, donc la foi est rémunérée par le Seigneur lui-même. Hébreux 11, verset 6, le dernier verset, ne partez pas, hein, si j'étais un peu long. Hébreux 11, verset 6 dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que la foi l'est récompensée. Merci Seigneur. Amen. Bon, on sait qu'on ne le fait pas pour la récompense. Hein. On le fait parce qu'on aime le Seigneur, qu'on veut lui plaire, qu'on veut être libre intérieurement, libre physiquement pour pouvoir eh bien justement le servir. Hein. Et oui, ah oui, le Seigneur est juste. Lui, il saura rétribuer chacun au temps voulu. Est-ce que nous voulons qu'il nous récompense? Est-ce que nous voulons être rétribués quant à nos efforts? Oui. Alors avançons. Continuons à lever la tête. Faisons confiance au Seigneur. Tout le monde te dit que ce n'est pas ça, que tu te trompes. Mais toi, tu as été convaincu par l'Esprit de Dieu. Mais va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en chemin. Fais-lui confiance. Lui fera sa part. Il fera sa part. Il ne manquera pas. Il ira jusqu'au bout. Parce qu'il s'y est engagé. Il a dit qu'il était avec nous que quand ça allait bien. Alors, que quand c'est difficile. Non plus. Il est avec nous quand? Tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'est pas encore à la fin du monde. Pas loin, oui, ça s'approche. Oui. Mais en tout cas, il est encore là. Et il sera encore là. C'est encourageant, Christian, hein? Ah oui! Alléluia! Et oui, on a besoin! On a besoin de persévérer, d'aller jusqu'au bout et de lui faire confiance. Amen! Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ce conseil que tu nous as encore donné ce matin. Merci d'avoir suscité la foi, de l'avoir encouragé, d'avoir également encouragé la persévérance. Seigneur, c'est une attitude qu'il nous faut avoir. Seigneur, jusqu'au bout, il nous faut tenir. Ne pas nous laisser arrêter, ni déstabiliser, ni prendre dans le filet de l'oiseleur. Seigneur, tu nous as affranchis, nous sommes libres. Mais libres de croire est le plus important pour nous. Libres de te faire confiance. Libres d'avancer. Libres de gravir la montagne pour pouvoir arriver au sommet et contempler ta grâce, ta puissance à l'œuvre. Sois béni, Jésus, parce que tu encourages ce matin, je le crois. Tu fais du bien. Et à toi la gloire.